Matière à penser, Patrick Boucheron.
Bonsoir, Matière à penser, cette semaine consacrée à cette question ailleurs, la Chine. La Chine est peut-être ailleurs, mais en Chine, beaucoup de gens, des travailleurs, vivent de loin ou d'ailleurs. 300 millions de travailleurs migrants peut-être aujourd'hui. Et pour en parler, Chloé Froissart, maître de conférence à l'université Rennes 2, elle a consacré de très beaux travaux à la question de la Chine et des migrants, et à travers la question des migrants, les questions de citoyenneté, les questions de démocratie, les questions de participation, les questions de tout ce qui au fond nous intéresse depuis lundi de la contestation ou de l'autoritarisme. Bonsoir Chloé Froissart.
Bonsoir Patrick Boucheron.
Vous avez d'abord fait vos études à l'INALCO. Vous avez choisi la Chine ou le chinois? C'était la langue ou c'était déjà le pays?
J'ai commencé en fait à apprendre le chinois quand j'étais au lycée, à l'école alsacienne. C'est une langue qui m'a tout de suite beaucoup fascinée. Et je dois dire que j'avais besoin de cet ailleurs, d'être pour penser ailleurs, par l'ailleurs. Et c'est en allant en Chine, c'est à travers mes rencontres, que ce pays m'a amené aux sciences politiques. Alors qu'au départ, je venais d'une formation classique. Quand j'ai ensuite décidé de poursuivre mes études de chinois à l'INALCO, après avoir fait des études de lettres, j'étais vraiment dans une perspective de classique. Donc j'ai appris le chinois classique, la pensée classique, l'histoire de l'art classique, l'histoire ancienne. Et ce sont des rencontres que j'ai faite au cours de mes séjours en Chine, et en particulier de mon premier séjour de longue durée en 99-2000, qui m'ont amené à la science politique, à la Chine contemporaine et à ses enjeux politiques.
Avec des étudiants, avec des chercheurs, et c'est aussi la question des rapports entre les sciences sociales françaises ou européennes d'une part et chinoises d'autre part, dont on doit parler. Chloé Froissart, vous avez dirigé le Centre franco-chinois de recherche en sciences sociales de l'université de Tsinghua de 2014 à 2018 environ.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire que vous y étiez au moment où, pour le dire rapidement, les choses s'aggravaient, puisque avec le gouvernement de Xi Jinping, évidemment, et ça vous le montrez aussi très bien, la tentation du monopole politique sur les sciences sociales s'alourdissait.
Absolument. Bon, Xi Jinping est arrivé au pouvoir à l'automne 2012, puis il a été nommé président, à l'automne 2012 en tant que secrétaire du parti, puis il a été nommé président de la République populaire de Chine en mars 2013 par l'Assemblée nationale populaire. Mais au départ, c'était un président qui donner des gages un peu à tous les courants, et on ne savait pas bien le situer. Il pouvait être pris comme un libéral par certains, et puis en même temps il y avait des choses qu'il disait qui renvoyaient à des idéaux de la nouvelle gauche. Mais son point de vue, enfin sa volonté de reprise en main s'est affirmée progressivement, et en particulier à partir de l'été 2013, où a fuité ce qu'on appelle le document numéro 9, qui est un document qui instaure un certain nombre de tabous, de mots qu'on ne peut plus prononcer, comme
les
société
mots,
civile.
Oui, les sept mots qu'on ne peut pas dire.
Voilà, comme société civile, citoyenneté.
Liberté d'expression, valeurs universelles, droits civiques, indépendance du système judiciaire, erreur passée du Parti communiste.
Exactement. Et à partir de là, bon, ça a été, si vous voulez, une sorte de révélation. Le parti, Xi Jinping, a commencé à vraiment reprendre en main de manière extrêmement ferme la Chine, la société, les intellectuels. Et quand moi, j'ai été nommée à la tête du Centre franco-chinois de l'Université Tsinghua en sciences sociales, c'était exactement au moment à Pékin.
C'est à Pékin, donc c'est au plus près du pouvoir.
Exactement, et d'autant plus près du pouvoir que l'Université Tsinghua a un rang de ministère. C'est la plus grande université de Chine. Enfin,
il faut expliquer aussi à nos auditeurs que c'est crucial aussi dans le système politique chinois. Une université est dirigée évidemment comme partout par un président, mais il y a aussi le secrétaire du parti qui est très important.
Absolument, absolument. Toute université a un secrétaire du parti, en plus d'un président. C'est exactement la même structure qu'au sommet de l'État. Et ensuite, chaque faculté, donc la faculté des sciences sociales dont notre centre de recherche dépendait, a également un secrétaire du parti. Et au moment où j'ai pris mon poste, c'est le moment exact où Xi Jinping a lancé une campagne de reprise en main idéologique dans les universités, avec l'idée qu'il fallait faire en sorte que les chercheurs et les enseignants cessent de promouvoir des valeurs qui étaient considérées comme venant de l'Occident, exogènes à la Chine, et donc polluant l'esprit des chercheurs et des étudiants. Et
Chloé Froissart, mais en même temps, et c'est ça qui est passionnant, tout en voulant faire des sciences sociales un levier de puissance et d'influence pour la Chine, et en ramenant le Parti communiste au cœur du dispositif. C'est ça, c'est ce côté néo-maoïste qu'on n'a pas très bien compris au fond en Europe, que vous mettez en avant, Chloé Froissart.
Il y a un rapport extrêmement ambigu, ambivalent du Parti communiste à l'égard des sciences sociales. À la fois, il a une conception des sciences sociales complètement différente des nôtres. C'est en tout cas de la conception française des sciences sociales critiques, indépendantes, qui questionnent en particulier le pouvoir. Pour la Chine, les sciences sociales sont un outil du pouvoir pour lui permettre d'identifier un certain nombre de problèmes sociaux et d'y remédier. Donc, si vous voulez, les chercheurs sont considérés non pas comme autonomes par rapport au pouvoir, mais comme, en quelque sorte, des conseillers du prince pour aider le parti à gouverner, en quelque sorte. Et c'est d'autant plus vrai que la Chine, les chercheurs sont directement financés par le Parti communiste, par des appels à projets, et il n'y a pas d'autre source de financement que celles qui viennent du pouvoir. Et en même temps, donc il y a, si vous voulez, une chape de plomb extrêmement importante sur les sciences sociales, qui sont sommées en quelque sorte d'avoir un côté très pragmatique et très technique, mais aussi d'élaborer un discours, et je dirais, et c'est là où ça flirte un peu avec l'idéologie, un discours qui permette au parti d'asseoir sa légitimité, de l'inscrire dans une histoire qui fasse sens et qui légitime sa place aujourd'hui toujours à la tête de la Chine.
Et qui la place à l'avant-garde du monde, écrit Xi Jinping dans un de ses discours que vous citez.
Ah, ça, c'est le rêve chinois de Xi Jinping, oui, ce serait en effet que la Chine prenne sa revanche, si vous voulez, des guerres de l'opium, qui sont vraiment le conflit fondateur pour comprendre les rapports d'amour-haine entre la Chine et l'Occident.
Se venger de l'humiliation, c'est systématique.
Se venger de l'humiliation, exactement, que les Occidentaux ont fait subir à la Chine au moment, à la fin du 19e siècle, où ils ont forcé les portes de la Chine pour faire du commerce de l'opium et ont instauré une sorte de concession.
Et d'ailleurs, je vous arrête, Chloé Froissart, mais il y a quelques jours, lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris, 15 avril 2019, l'agence chinoise de la télévision a dit que la Chine ne se réjouissait pas des malheurs d'autrui, mais n'oubliait pas l'humiliation. Et donc, il y avait une allusion directe à l'incendie du palais d'été de Pékin,
absolument,
en 1860.
Ah, oui, absolument. Vous avez tout à fait raison de le rappeler, Patrick Boucheron. Mais il y a aujourd'hui aussi cette volonté de revanche qui est, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette rencontre traumatique de la Chine avec l'Occident a été le moment où elle a voulu apprendre de l'Occident pour retourner les armes contre l'Occident. C'est-à-dire que il fallait apprendre de la modernité occidentale pour devenir aussi puissante que l'Occident. Et la Chine aujourd'hui, en quelque sorte, a réussi ce rêve de devenir une puissance, un pays puissant et prospère. C'est vraiment comme ça que ça se formule en chinois. Et au fur et à mesure que la Chine étend son influence économique et stratégique dans le reste du monde, il y a aussi cette volonté de constituer un modèle, et en particulier de proposer un modèle alternatif de modernité. Et ça, ça passe aussi par les sciences sociales, qui sont intimement liées depuis toujours avec la question de la modernité.
Vous avez, Chloé Froissart, écrit dans le dernier numéro de Perspectives chinoises un intéressant éditorial, Enjeu du débat sur les sciences sociales dans la Chine, de Xi Jinping. Et justement, vous rappelez que cette ambition et aussi cette espérance, dès les années 30, au fond, d'hybrider les savoirs occidentaux, d'avoir une voix propre chinoise. Et donc, il faut bien comprendre que les auditeurs prennent la mesure que cette reprise en main, elle est poignante parce que il y avait un dialogue en cours quand même. Il y avait un dialogue en cours depuis très longtemps. Et vous, par exemple, Chloé Froissart, vous avez cru possible et vous l'avez organisé autant que vous le pouviez. Un dialogue de sciences sociales avec vos collègues et amis, j'imagine, chinois.
Alors, il y a toujours un dialogue, heureusement.
Oui. Hein,
parce que le Parti communiste, ce ne sont pas les chercheurs, ce n'est pas les partis communistes, même si le rêve du Parti communiste, évidemment, c'est de contrôler les cœurs et les esprits. Mais même s'ils se font de plus en plus rares, il y a quand même des chercheurs en Chine qui résistent et qui ont décidé qu'ils continueraient à faire ce qui les intéressait et de la manière dont ils ont envie de le faire. C'est très dur. Ces gens-là sont
de plus en plus durs.
Ces gens-là sont souvent dénoncés par leurs étudiants. Il y a des caméras dans les salles de classe. Ils sont menacés d'être tout simplement non seulement critiqués sévèrement, rééduqués quasiment, mais aussi de perdre leur poste. Et c'est ce qui s'est passé régulièrement. Là encore, à Tsinghua, un grand professeur de droit vient de perdre son poste. Mais en même temps, si vous voulez, ça a été un peu tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut toujours, on peut toujours dialoguer avec des chercheurs et ruser avec le Parti communiste. À partir du moment, bon, ça a été très lourd ces années, si vous voulez, dans la mesure où il y avait un contrôle direct qui s'est alourdi énormément. On peut rien organiser sans obtenir des autorisations. Même le moindre petit séminaire avec des doctorants doit obtenir une autorisation. Alors dès que des financements sont en jeu et que, par exemple, des chercheurs, on veut inviter des chercheurs de l'étranger, là, ça devient extrêmement compliqué. Mais malgré ça, on peut toujours packager, soit le titre des livres, les titres des séminaires, des conférences, des colloques, d'une manière à ce que ça réponde, à un discours du Parti communiste, de manière ou d'une autre, et puis de faire complètement autre chose pendant le séminaire ou la conférence.
Oui.
Et puis
ça, c'est une pratique de la dissidence au fond, qui consiste
à feinter. Non, c'est une pratique commune et courante, oui, de survie dans un système autoritaire que tout le monde fait.
Alors, c'est de ça dont on doit parler, Chloé Froissart. Ensemble, vous avez, avec d'autres, publié un livre sur la démocratie en Asie, en 2015. Et vous parlez de la démocratie en Chine comme une question d'équilibre. C'est le titre de votre contribution. Et d'ailleurs, dans les 7 mots interdits dont on vient de parler, ceux qui ont été définis en avril 2013, il n'y a pas de démocratie. Démocratie, d'une certaine manière, n'est pas un mot interdit en
Absolument.
Chine. Et depuis, au fond, 100 ans, vous montrez que depuis 1919, précisément, le pouvoir chinois utilise comme un outil de puissance, au fond, l'idéal démocratique et une sorte de tentation démocratique de la société que vous décrivez en politologue très finement.
Alors, la Chine, la République populaire de Chine s'est toujours proclamée démocratique. Mao parlait de la grande démocratie, c'est-à-dire une démocratie du peuple, une démocratie directe, qui s'exprimait à travers des mouvements de masse, mais où, si vous voulez, le peuple était amené à s'exprimer plus ou moins conformément à la ligne du parti, parce que le parti demandait parfois à ce que des critiques s'expriment, hein, pour faire en sorte que les contradictions se résolvent plutôt qu'elles explosent comme une cocotte minute, jusqu'à remettre le couvercle très vite dès que ça allait trop loin. Mais si vous voulez, il y a toujours eu cette idée que la Chine est un pays démocratique. toujours avec une volonté de définir ce terme de démocratie de manière complète, enfin, différente de celle de la démocratie libérale occidentale, en particulier à travers donc cette démocratie directe, avec l'idée aussi que le peuple est amené à participer, mais à participer pour de plus en plus à l'État, je dirais, au bon fonctionnement de l'État, et il y a cette volonté aussi de dire ben la démocratie représentative telle qu'elle est en tout cas mise en œuvre en Occident aujourd'hui est en crise, et la Chine a peut-être aussi là-dessus un modèle alternatif à proposer à travers d'autres formes d'expression de la volonté du peuple.
C'est ça au fond qui est à l'œuvre et qui est le nerf de votre travail, Chloé Froissart, c'est est-ce que finalement les Chinois parviennent à avoir une voix propre à la démocratie, ils le souhaiteraient vraiment, cet autoritarisme consultatif comme vous l'appelez parfois, cette tension constitutive entre la participation et la contestation, et au fond aujourd'hui depuis 2012-2013, il y a effectivement une reprise en main plus banalement autoritaire, on va le dire, puisque Xi Jinping est un des rares dirigeants chinois dans l'histoire à ne pas s'appuyer sur des mobilisations de masse, c'est ce que vous montrez. Au fond, c'est pas ça qui l'intéresse, ce n'est plus ça qui l'intéresse.
Non, ça c'est vraiment la... Autant Xi Jinping emprunte beaucoup de choses à Mao, énormément de choses, mais alors là-dessus, c'est vraiment extrêmement différent. Non, Mao s'appuyait sur les masses pour reconquérir le pouvoir et se maintenir au pouvoir, mais Xi Jinping, lui, n'a pas du tout ce rapport direct aux masses. En revanche, ce qu'il essaye de faire, un des grands défis de ce régime depuis toujours, c'est de... gérer les contestations qui sont extrêmement nombreuses. Et donc, tout le défi qui se présente à ce régime, c'est de faire en sorte que les organisations sociales, les contestations, les mobilisations ne remettent pas en cause le régime, ne le menacent pas, mais au contraire concourent à son mode de fonctionnement, à sa rationalisation, et donc, en quelque sorte, à sa pérennité. Et donc, on est là face à une contradiction, mais qui n'est pas forcément propre à la Chine, qui se retrouve dans d'autres régimes autoritaires, si vous voulez, et qui remet en question, en cause, la définition du régime autoritaire tel qu'a pu le donner un théoricien comme Juan Linz, par exemple, c'est-à-dire un régime avec un contrôle extrêmement fort de la société, ne permettant aucune forme de résistance, aucune mobilisation, aucune organisation de la société. Pas du tout.
C'est pas ça du tout.
La Chine a un taux énorme de contestation, on les connaît pas parce que le Parti communiste a cessé de produire des chiffres, les données étant trop sensibles, et que à l'échelle continentale de la Chine, c'est extrêmement difficile de recenser toutes les contestations, mais en tout cas, c'est une société vibrante et contestataire.
Et ça, c'est très important parce que justement, c'est là où on est au cœur de l'enquête de sciences sociales que vous menez ou que vous contribuez à promouvoir. Chloé Froissart, par exemple, on peut lire sur le site La Vie des Idées un de vos articles sur une grève très importante dans le Guangdong en 2010 aux usines Honda Nanhai, et qui est une grève qui a non seulement duré mais qui au fond a essaimé, c'est-à-dire qui a d'une certaine manière été un modèle pour d'autres formes de contestation sociale.
Absolument. Bon, dans le domaine du travail, hein, sur lequel j'ai passé beaucoup de temps, on voit une évolution extrêmement intéressante et extrêmement importante. Bon, les contestations se sont développées, les grèves ont énormément augmenté depuis le début des années 2000 suite à une conjonction de facteurs, à la fois la promulgation de lois étoffant le droit du travail chinois, qui est aujourd'hui très proche du droit du travail tel qu'on peut l'avoir en France, sauf sur un point, la reconnaissance des droits collectifs à s'organiser. Et d'un manque de main-d'œuvre, si vous voulez, dans les centres les plus importants, industriels les plus importants, dont la province du Guangdong que vous venez de citer. Et ces grèves qui, au départ, s'appuyaient sur une conscience de la loi, c'est-à-dire au fur et à mesure que les ouvriers ont pris connaissance de cette loi qui a été par ailleurs, qui leur a été transmise à la fois par des ONG, mais aussi par les syndicats officiels et par les médias, tout ça, eh bien, ils ont commencé à réclamer ce qui était stipulé dans la loi en disant « mais on y a droit ». Et au fur et à mesure, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que s'ils sont... C'est-à-dire que le parti, en quelque sorte, a... alimenter ces
oui,
grèves,
ça.
Puisqu'il
c'est
a,
ça,
il a codifié le travail.
Et puis d'une certaine manière, il y a aussi les ONG qui sont tolérées en cessant d'être ONG finalement, puisqu'elles sont intégrées à l'appareil gouvernemental. Mais vous montrez, plus ou moins, j'exagère, mais et donc vous montrez, Chloé Froissart, qu'il y a là quelque chose d'important, qui est que ces grèves, au fond, ne porte moins sur le salaire que sur la reconnaissance des droits.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que au fur et à mesure, les ouvriers se sont rendus compte qu'ils avaient non seulement des droits stipulés par la loi, mais qu'ils avaient aussi, si vous voulez, des intérêts. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont dit, mais on ne va pas passer par les canaux institutionnalisés de résolution des conflits, comme le veut le parti, ça sert à rien, d'une part parce que ça individualise les revendications, hein, et d'autre part parce que c'est une perte de temps et d'argent, on n'arrive jamais à obtenir gain de cause. Et donc aussi parce que leurs demandes ont commencé à évoluer et à concerner ce qui n'est pas dans la loi en particulier, et c'est ça, et c'est le tournant que symbolise Honda, l'augmentation des salaires. L'augmentation des salaires, c'est quelque chose typiquement qui est négocié. Or, les syndicats en Chine étant des organisations de masse, c'est-à-dire complètement contrôlées et pilotées par le parti, ils ne parviennent pas à représenter les ouvriers. Et se sont donc développées des organisations qu'on dit non gouvernemental pour aller vite, mais c'est compliqué évidemment, régime autoritaire, mais disons que certaines d'entre elles sont de facto autonomes et tentent de promouvoir le mouvement ouvrier. Et se sont développées, à la suite de ça, aussi des négociations collectives qui répondent en tout point à notre définition de négociations collectives, c'est-à-dire des négociations autonomes, initiées volontairement par des représentants des ouvriers et des employés, et des employeurs, je veux dire, pardon, pour négocier les conditions de travail, en particulier l'augmentation des salaires. Ça a pu se faire, il y a une vague développement de négociations collectives, cet ordre-là, qui se sont développées entre 2011 et 2015, grâce au soutien d'organisations, d'ONG, qui ont appris aux ouvriers comment négocier, comment élire des représentants, comment négocier avec leur employeur, et ce que ça voulait dire, d'essayer de négocier pour la reconnaissance des droits, pas uniquement pour l'augmentation des salaires, mais aussi pour le droit de s'organiser sans être puni pour cela. Et c'est ce que j'appelle une forme de négociation d'autoritarisme qui, en fait, intervient sous multiples formes en Chine, régulièrement, jusqu'à ce qu'elle mette véritablement en danger le régime. Et à ce moment-là, si vous voulez, tout l'enjeu pour le parti, c'est de capitaliser sur ce type de négociation, de mobilisation, qui ont un rôle dans le fonctionnement du système, y compris autoritaire, puis dans la mesure où il permet d'instaurer un dialogue social qui empêche le développement de grèves qui pourraient être beaucoup plus radicales et prendre à partie, par exemple, le Parti communiste. Mais à partir du moment où ces négociations prennent trop d'ampleur, qu'elles permettent aux ouvriers d'obtenir beaucoup d'argent de la part des entreprises, etc., et qu'elles remettent aussi en cause les syndicats officiels, eh bien, à ce moment-là, le parti a voulu mettre un terme à l'expérience et a sévèrement réprimé les ONG.
Quand 兄弟们来把工地占，条件一个结工钱，周二熊细皮又笑脸，好说好说，咱夜里十二点准时结工钱。到了夜里十二点，骗人的招数露了馅，先是来了三车安全帽，想跳起内讧在工友之间。后又来了幺幺零。
France Culture, matière à penser, Patrick Boucheron.
说要把我们全部都收拢。
Matière à penser, toujours en compagnie de Chloé Froissart. Qu'est-ce qu'on entend là ?
On entend en fait une chanson qui s'appelle Récupérer son salaire et qui est chantée par un groupe de migrants qui sont constitués en groupe de musique et voilà, qui raconte les péripéties pour récupérer le dû, leur dû à la fin de chaque année avant de partir, retourner dans leur village pour célébrer le nouvel an en famille. Nouvel an chinois en famille. Et en fait, c'est terrible parce que apparemment c'est un groupe de travailleurs du bâtiment.
Oui.
Et ils vont voir le patron en disant « Alors, tu nous payes ?» Et le patron les fait lanterner en disant « Oui, d'accord, ok, je vous paierai ce soir à minuit. » Et ils arrivent donc à minuit sur le chantier. Et là, le patron les enguirlande en disant « Écoutez, ça suffit, j'appelle la police. » Et la police débarque et arrête les migrants et les met et les enferme dans un centre de rétention administratif. Et c'est exactement ce qui s'est passé pendant extrêmement longtemps en Chine. Ces travailleurs qui viennent de la campagne et qui ne peuvent pas obtenir leur salaire. Et la chanson se termine en racontant qu'il y en a un d'entre eux qui se lève et qui dit « Mais non, on a le droit, c'est notre dû. C'est juste de le demander. » Et avec l'idée qu'il faut se mettre derrière ce type de personnes qui osent prendre la parole, les soutenir et que chacun s'unisse pour obtenir collectivement, pour tenir leur dû. Voilà.
Vous avez consacré votre thèse, Chloé Froissart, à la Chine et ses migrants. On l'a dit tout à l'heure, c'est un phénomène massif. Il y a 300 migrants peut-être aujourd'hui en Chine, qui est un outil de planification aussi, et depuis très longtemps, depuis les années 50. Et d'une certaine manière, tout part d'un objet, et qui est un objet essentiel, enfin un papier, un passeport intérieur, c'est le hukou. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que c'est ?
Ben, le hukou, en réalité, c'est un système d'enregistrement de la population qui a été, tel qu'on le connaît aujourd'hui, institutionnalisé sous Mao, en 54, et qui a divisé les villes et les campagnes en deux sociétés complètement différentes, et surtout instauré un système de statut entre les ruraux et les urbains, c'est-à-dire que les ruraux avaient la fonction de dégager les soi-disant surplus agricoles qui devaient permettre de financer l'urbanisation des villes et ce qu'on a appelé le bol de riz en fer des urbains, c'est-à-dire le fait que les urbains étaient pris en charge par l'État, du berceau à la tombe, l'État prenant en charge l'éducation des enfants, l'emploi à vie, la sécurité sociale, le logement qui était attribué en même temps que l'emploi, etc. Alors que eux, les paysans, devaient compter sur leur propre force pour tout cela. Et si vous voulez, l'idée du hukou, c'est que chacun avait un rôle à tenir dans le système de production. Et qui dit un rôle à tenir dans le système de production dit qu'il faut rester à sa place.
Oui. Hein. Et c'est donc une société de statut.
C'est une société de statut, absolument. C'est une société de statut entre ruraux et urbains d'une part, mais aussi entre les villes, entre les urbains, puisque le régime de la RPC sous Mao a établi, comme d'ailleurs en URSS, une hiérarchie très stricte des villes, avec les grandes villes à la tête qui reçoivent plus de subsides de l'État et où les urbains jouissent de plus de services publics et de prise en charge sociale, et tout en bas, les bourgs qui, eux, n'ont quasiment aucun service. Donc, si vous voulez, ce hukou a établi une sorte de ruche de statut qui, au tout début du mois, était plus ou moins cohérent avec la place que les personnes occupaient dans le système de production, et j'insiste là-dessus, qu'elles ne devaient pas quitter sous peine de faire écrouler le système. Et c'est aussi pour ça que le hukou est devenu un système de contrôle des migrations. Dès le début des années 1960, plus personne ne peut migrer de manière spontanée en Chine.
Parce que concrètement, si on a un hukou rural...
On ne peut pas aller à la, en ville, si vous voulez, librement.
Oui.
Il y a des checkpoints qui ont été instaurés. Pour se rendre en ville, ça ne peut être que sur, si vous voulez, l'ordre de votre... commune populaire sur l'invitation d'une Danois, c'est-à-dire d'une unité de production urbaine qui a besoin de vos services de travailleurs pour un temps limité et à l'issue duquel vous êtes censé regagner votre village.
Et c'est pour pourquoi et c'est pour cela Chloé Froissart que votre étude si précise de des migrants, c'est-à-dire de l'accès aux soins, de la scolarisation, etc., débouche sur une réflexion, je dirais, de politologie sur la citoyenneté, parce que du coup, il n'y a pas de citoyenneté universelle, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des statuts divers de citoyenneté différenciée.
C'est ça, vous avez
tout à fait. Et localisée.
Absolument. Ce qui est intéressant en Chine, c'est qu'il y a une tension entre, si vous voulez, un régime qui, comme l'URSS avant lui, n'a pas su trouver de modèle politique alternatif à la modernité libérale occidentale, dans la mesure où on est face à un régime qui a une façade républicaine et démocratique, dont la constitution proclame un certain nombre de droits fondamentaux, dont d'ailleurs le droit de manifester, à la croyance religieuse, etc., et surtout l'égalité des citoyens, et en même temps a instauré un système autoritaire extrêmement sophistiqué, et en particulier sous l'époque, à l'époque maoïste, un système de statut à travers le hukou, justement. Et si vous voulez, ces statuts, ils n'ont pas été vraiment palpables pendant toute l'époque maoïste, puis les gens ne bougeant pas, ne migrant pas, n'étaient pas confrontés les uns aux autres. Et à partir du moment où le marché a été réintroduit, avec le lancement des réformes à la fin des années 70, début des années 80, eh bien, des migrants, des paysans ont quitté la campagne pour venir travailler en ville. Et ce mur qui avait séparé pendant toute l'époque maoïste, mur invisible entre les villes et les campagnes, s'est écroulé. Et là, des gens avec... tout en étant citoyens de la République populaire de Chine avec des statuts extrêmement différents, se sont retrouvés côte à côte en ville. Et d'ailleurs, l'un des termes pour désigner ces migrants, Mingong, en chinois, dit tout... très
ouvrier simple. Paysan, en fait.
Voilà, ouvrier paysan, c'est-à-dire ouvrier qui garde le statut de paysan.
Mais alors, il y a des diversités régionales extraordinaires, parce que si on prend par exemple la ville de Chongqing, donc au delta du Yangtze, en Chine du Nord, une ville côtière qui aujourd'hui a presque 30 millions d'habitants, je crois, c'est ça, c'est une métropole, en fait, son territoire urbain est grand comme l'Autriche. On a tellement besoin de migrants que, en fait, le hukou, qui est un permis à points, au bout de 5 ans, c'est ça, on devient urbain. Donc, il y a des accommodements, en fait, avec ces statuts.
Vous avez tout à fait raison. Ces statuts ont bien entendu évolué depuis le début des réformes. Il y a eu des réformes du système du hukou. Et justement, si vous voulez, moi, j'ai été pendant toutes les années où j'étais sur le terrain en Chine, témoin de cette transformation, comment des paysans qui étaient véritablement traités en criminels, en étrangers dans les villes de leur propre pays, quand j'ai commencé mes recherches au début des années 2000.
Vous avez travaillé à Chengdu, vous avez travaillé à Canton.
J'ai travaillé beaucoup à Chengdu, j'ai beaucoup travaillé dans le Delta, en particulier à Canton, à Shenzhen et à Pékin. Et si vous voulez, comment ces gens-là ont finalement été petit à petit intégrés. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que cette intégration, elle suit un schéma qui est complètement inverse, si vous voulez, du schéma républicain qu'on connaît dans les démocraties occidentales, en particulier françaises, où l'État essaye de compenser les inégalités sociales, de tendre la main aux plus pauvres, aux plus mobiles, etc. En Chine, c'est exactement l'inverse. Le Parti communiste chinois est un parti extrêmement élitiste, absolument pas prolétarien. Il tend la main à une élite et parmi les migrants, à une élite de migrants, c'est-à-dire à ceux qui peuvent investir en ville, à ceux qui ont des qualifications recherchées et bien sûr qui sont capables de se prendre en charge, ce qui ne coûte rien à l'État, puisque l'une des conditions pour pouvoir obtenir un RUCO urbain aujourd'hui est d'avoir, de pouvoir se loger, en général de, d'être propriétaire de son logement, de cotiser à la sécurité sociale, qui est en fait un système d'assurance, sans redistribution. Et à ce moment-là, si vous donnez des gages d'intégration, si vous apportez beaucoup aux villes dans lesquelles, dans la ville où vous résidez, à ce moment-là, les municipalités vous tendent la main et vous donnent un petit coup de pouce, comme par exemple facilite l'accès à l'éducation censée être gratuite et obligatoire pour les enfants pendant 9 ans.
Et vous montrez aussi d'ailleurs que, comme les choses sont compliquées, parfois certains reviennent à la campagne pour se faire soigner, parce que même si les soins sont de bien moindre qualité, ils y ont droit. Donc il y a là une diversité de statuts qui met à mal ou qui met à l'épreuve l'universalité des droits. Et pourtant, cette universalité des droits
est proclamée.
Elle est proclamée. Mmh. Elle est proclamée par la Chine et elle peut être aussi à l'épreuve de certaines affaires ou de certains scandales, d'une certaine manière rendue réelle. Vous racontez quelque chose qui est tout à fait passionnant. C'est l'affaire Sun Tsigang, c'est ça?
Sun Tsigang.
Ah bah oui, de toute façon, je n'arriverai jamais cette semaine à correctement prononcer les noms chinois. On est en 2003 et c'est un graphiste, en fait, qui va être passé à tabac et qui va mourir dans un centre de détention. Et là, c'est pas un migrant comme les autres, évidemment, il est diplômé, et ça va faire scandale. Et plus que plus qu'un scandale, c'est une affaire. Et donc, d'une certaine manière, c'est la forme sociologique affaire, on pose le problème de l'universalité des droits à partir de ce fait divers qui tourne mal.
Absolument. En fait, si vous voulez, c'était un problème qui existait depuis toujours en Chine, c'est-à-dire que les migrations ont certes été facilitées avec les réformes, mais l'État n'a pas complètement renoncé à les contrôler, et ce pendant très très longtemps. Et donc, il fallait un certain nombre de permis pour quitter son village, pour pouvoir rester en ville, y habiter légalement, y travailler légalement, etc. Et tous ces permis faisaient, qui d'ailleurs étaient onéreux puisqu'il fallait payer pour les avoir, faisaient que les gens qui ne les avaient pas étaient en quelque sorte hors la loi dans les deux sens du terme, c'est-à-dire à la fois en infraction avec la loi, mais sans aucune forme de protection légale. Et il y avait régulièrement des campagnes de nettoyage des villes où on arrêtait les migrants et on les renvoyait chez eux. Et souvent, même avant de les renvoyer chez eux, on les enfermait dans des centres de détention et de rapatriement. Et si vous voulez, c'est un fléau qui a duré pendant des années et des années, où les gens étaient traités, étaient parfois obligés de travailler dans ces camps, dans ces centres de détention, et étaient enfermés pour une durée indéterminée, en dehors de tout contrôle judiciaire.
Mais là, en 2003, il y a eu une affaire.
En 2003, il y a eu cette affaire qui a cristallisé le mécontentement, parce qu'elle est très symbolique à plusieurs égards. Comme vous le mentionnez tout à l'heure avec justesse, elle a concerné non pas un migrant anonyme, une figure anonyme parmi ces 300 millions de personnes, mais un migrant qui venait d'une autre ville, donc
oui,
d'origine urbaine.
Il y a un des universitaires, vous le citez, qui dit ça aurait pu être mon fils ou
exactement.
Mon étudiant.
Donc là,
universitaire.
Ouais, ouais. Ai Xiaoming, professeur de l'université Sun Yat-sen à Canton. Et donc, ce migrant était quelqu'un de qualifié, il était designer dans une boîte de design industriel, et en fait, il se fait arrêter au faciès, comme c'était le cas, par des policiers dans la rue. Il n'avait pas ses papiers sur lui et il est embarqué, enfermé. Là-dessus, la personne, son coloc, apporte quand même ses papiers au poste de police, qui refuse de les prendre en compte. Et quelques jours après, on apprend qu'il est décédé. Alors, son père met les journalistes sur le coup, qui font une enquête, et il révélé qu'il a été tabassé à mort par ses co-détenus, souvent plus ou moins sur ordre des policiers, des matons. Et Et en fait, ça a été une affaire qui a cristallisé ce mécontentement.
Avec un appel à l'opinion publique, c'est contre, ça qui est important.
Voilà, contre cet état policier qui, tout d'un coup, on prend conscience qu'il peut menacer tout à chacun, tout citoyen chinois, qu'il soit d'origine rurale ou urbaine. Et il y a un phénomène d'identification très fort qui a eu lieu à ce moment-là. Comme vous le mentionniez, il y a cette professeure qui dit « mais ça aurait pu être mon fils, ça aurait pu être n'importe qui !» et qui s'exprime sur les réseaux sociaux, parce que très vite aussi les journaux étaient sommés d'arrêter de publier sur cette affaire. Mais là, c'est un des débuts d'Internet, et les gens s'expriment sur les réseaux sociaux, et ça fait un énorme une chambre d'écho à l'échelle de la Chine tout entière. Et là, enfin, il y a aussi, troisième élément important, les avocats constitutionnalistes, juristes constitutionnalistes qui interviennent. Il y a un groupe d'avocats à Pékin qui montre que, en fait, les règlements régissant ces centres de détention sont anticonstitutionnels et demandent la mise en place d'un contrôle de constitutionnalité. Bon, qui leur a été évidemment refusé, parce que qui dit contrôle de constitutionnalité aurait dit réforme politique vraiment très importante, mais le premier ministre de l'époque est intervenu pour proclamer la fin de ces centres. Il a aboli ces centres détention et de rapatriement.
C'est vraiment une affaire qui a une répercussion immédiate et positive.
Absolument.
La dernière question que j'ai envie de vous poser, Chloé Froissart, c'est parce qu'on était en 2003. Aujourd'hui, évidemment, il y a toujours des réseaux sociaux, il peut y avoir des scandales qui sont
beaucoup plus contrôlés,
révélés, mais c'est beaucoup plus contrôlé. Voilà. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui?
Alors, c'est possible. C'est possible, bien sûr, c'est possible. Mais si vous voulez, plus sur des sujets qui constituent également une priorité pour le Parti communiste. Par exemple, l'un des domaines de la société civile, entre guillemets, qui est le plus vibrant aujourd'hui en Chine, c'est celui qui concerne la protection de l'environnement. Parce que, justement, c'est une des priorités du Parti communiste. Et il y a eu des mobilisations, encore récemment, par exemple à l'hiver 2011-2012, par exemple, pour que la loi prenne en compte les PM 2.5,
oui.
Que les PM 2.5, les particules fines, soient prises en compte dans la manière de calculer le taux de pollution, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et ça aussi, ça a été une mobilisation essentiellement organisée via Internet et par ce qu'on appelle des leaders d'opinion, et qui a mobilisé une grande partie de l'opinion publique dans toute la Chine et qui a obtenu gain de cause.
Mais sur ce sujet, et seulement sur ce sujet pour l'instant.
C'est très circonscrit. Après, oui, c'est relativement circonscrit. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même des mobilisations en Chine. Il y en a régulièrement, encore une fois. Et beaucoup ont un impact quand même sur les politiques publiques, à partir du moment où elles ne remettent pas en cause le Parti communiste et le système autoritaire. Il y a une marge de manœuvre extrêmement importante, quand même. Moins, qui s'est rétrécie ces dernières années, dans la mesure où, justement, toute référence à une société civile libérale, combattante, etc., tente d'être éradiquée, mais il y a quand même des possibilités de mobilisation qui sont aussi bénéfiques, d'une manière générale, à ce système qui devient plus rationnel et plus à même de résoudre un certain nombre de problèmes sociaux grâce à ces mobilisations.
Et ce sont ces possibilités que vous reconnaissez, que vous décrivez, c'est ça aussi, je dirais, l'honneur, la dignité des sciences sociales. Merci Chloé Froissart.
Merci Patrick Boucheron.
Matière à penser, Chloé Froissart, Bernard Lagniel, Joséphine Lampreya, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Anne-Pascale Desvignes, Patrick Boucheron. Demain, nous achèverons notre semaine chinoise avec l'écrivain et romancier Dai Sijie. Bonne soirée.